Oui, bonsoir et bienvenue au Pôle des langues et civilisations pour cette 7e conférence du cycle La fin des frontières, organisée par la BULAC et ce soir en partenariat avec le Festival d'Île-de-France. Je vais vous demander de patienter encore quelques minutes puisque tous les intervenants ne sont pas arrivés, mais on va pas tarder à commencer en fait. Je passe la parole à Sandra Diazo du Festival d'Île-de-France qui va vous faire une courte introduction sur cette conférence.
Merci Mélanie, bonsoir à tous. Donc nous attendons le troisième intervenant qui ne devrait pas tarder à arriver. Du coup je vais en profiter pour faire une introduction sur le Festival d'Île-de-France pour ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est donc un festival de musique, à la fois musique classique, musique du monde, musiques actuelles, qui se déroule chaque année dans des lieux du patrimoine francilien, donc au mois d'octobre, septembre et octobre. Chaque année, on a donc une thématique autour de laquelle s'articule la programmation. Et cette année, il s'agit de la thématique des diasporas, donc diaspora musiques en partance. Donc c'est vraiment un voyage à travers tous les styles musicaux qui ont pu accompagner ces mouvements de population ou être inspirés par ces mouvements-là. Donc nous allons attendre nos intervenants. Donc cette table ronde, en fait, chaque année le festival propose des rencontres pour explorer un peu la thématique choisie. Donc cette table ronde est la troisième autour de la thématique des diasporas et donc on va accueillir notamment François Durpère qui va modérer la rencontre. Je le présenterai peut-être très très brièvement tout à l'heure quand il sera présent avec les intervenants. Voilà, à tout de suite. Bonsoir, je ne vais pas refaire la présentation de tout à l'heure. Juste voilà, rappeler que cette table ronde s'inscrit à la fois dans le cadre du Festival d'Île-de-France et dans le cadre du cycle de conférences des mardis de la BULAC. Donc voilà, on remercie chaleureusement la BULAC de nous accueillir ce soir et d'avoir accepté de faire entrer cette table ronde dans leur cycle. Je vais passer la parole à François Durpère, qui est historien, qui vient de publier un ouvrage, donc Les États-Unis pour les nuls, publié aux éditions First. Il a également écrit une biographie d'Obama. Et bientôt sortira le Que sais-je sur les États-Unis aux éditions Buff. Donc je vais lui laisser la parole. Merci, Monsieur Durpère.
Merci, bonjour à tous. Il y a quelques minutes, c'était sans doute un signe fort de l'évolution de notre temps, que ce mot diaspora, qui pouvait sembler ésotérique, alors pas dans le monde anglo-saxon, mais en tout cas en France il y a quelques années, eh bien aujourd'hui puisse servir de cœur, de thème du festival Île-de-France et attire du monde tout au long du festival. Donc aujourd'hui, on va évoquer la question des diasporas, une histoire en devenir vers un monde transnational, qui s'inscrit dans le cycle « La fin des frontières » des mardis de la BULAC. Et donc je demanderai à chacun de nos intervenants de faire un exposé court de 15 à 20 minutes maximum pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec vous. Alors je suis très très honoré de faire cette modération avec une approche pluridisciplinaire, parce qu'on a des sociologues, Stéphane Dufoy et Dominique Schnapper, et Mouhoud El Mouloud qui est économiste. Je donne la parole, alors je pense que on a trois des spécialistes internationaux de ces questions-là. Si le classement de Shanghai classe les universités et nous classe mal les universités françaises sont mal classées, les grandes écoles aussi. En revanche, les universitaires français sont traduits dans plusieurs langues et s'il y avait un classement strict des universitaires, je pense que ça serait autre chose, différent. En tout cas, les sciences humaines ne sont pas tellement représentées dans ce fameux classement de Shanghai. Mais 8 universités américaines dans les 10 premières, Voilà. Alors Stéphane Dufoy, donc, est maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Ouest Nanterre, qui a vous conseillé très rapidement d'acheter tous les exemplaires de l'ouvrage qui s'appelle « Les diasporas », qui est un ouvrage remarquable, les Américains en sont d'accord, ils viennent de le traduire, et qui va bientôt passer au pilon chez les PUF. Donc achetez tous les exemplaires, ça va peut-être relancer faire changer d'avis les PUF. Donc c'était un ouvrage de 2003. 2012, La dispersion, une histoire des usages du mot diaspora. Et puis un ouvrage qui est à paraître qui s'appelle Le tournant global, les sciences sociales et la globalisation, avec Alain Caillé. J'ai demandé à Stéphane Dufoy, avec son consentement, de nous définir le terme de diaspora et de nous fixer les enjeux du terme de diaspora.
Merci François. En fait, je ne sais pas si je vais totalement respecter le contrat, au sens où la définition du... D'accord. Au sens où la définition du terme est quelque chose de particulièrement compliqué à faire. Ce qui m'intéresse un peu plus, et ce qui, à mon avis, est peut-être justement le plus porteur d'enjeux, c'est justement d'essayer de comprendre comment... un terme qui est très ancien, puisque historiquement c'est un terme qui apparaît il y a 2300 ans, au 3e siècle avant l'ère chrétienne, dans un contexte très particulier qui est celui de la traduction en grec du Tanakh, donc du livre sacré des Hébreux. Comment un terme ancien est en fait devenu un mot contemporain ? C'est surtout cela qui va m'intéresser, c'est-à-dire comment, en 2300 ans, un terme qui correspond à une réalité très très particulière, et on peut même se demander si c'est véritablement une réalité au 3e siècle avant l'ère chrétienne, va prendre une acception complètement différente. Donc c'est cette histoire dont je vais essayer juste de vous dresser très rapidement par petites touches et par moments particuliers, en quelque sorte l'histoire des usages. Et donc de cette façon-là, c'est aussi une façon de botter en touche, je refuse d'une certaine façon de définir le terme une bonne fois pour toutes, pour plutôt me concentrer sur la manière dont il est devenu assez largement polysémique. Donc je le disais, c'est un terme qui apparaît dans cette traduction grecque du livre sacré des Hébreux, et donc une traduction de la Torah qui est connue sous le nom de la Septante, donc la Bible grecque. Et c'est dans le contexte de cette traduction que le mot diaspora est utilisé pour la première fois en grec. Il n'existe pas auparavant, c'est donc un néologisme qui est forgé dans le contexte de cette traduction, néologisme dont le sens est relativement clair, puisqu'il vient d'un verbe qui lui est attesté depuis déjà un certain temps en grec ancien, qui est le verbe diaspeirein, qui signifie disperser, donc en gros ça signifie la dispersion. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre ce que signifie ce terme véritablement dans le contexte de la Septante. En effet, il ne correspond jamais à ce qu'on appelle l'exode babylonien des Juifs. Il ne décrit absolument pas cet exode-là. Et surtout, il ne décrit pas une réalité migratoire ou une réalité historique. En fait, ce terme est utilisé pour évoquer un châtiment qui est celui qui attend le peuple juif s'il désobéit au commandement de son Dieu. S'il y a désobéissance, à ce moment-là, eh bien, le Dieu des Juifs les dispersera aux quatre coins de la terre. Et par ailleurs, étant donné qu'il s'agit de son peuple élu, il les rassemblera. C'est-à-dire que cette dispersion est immédiatement associée à une autre dimension que l'on oublie assez souvent quand on parle de cette époque-là, qui est la dimension de l'élection. La malédiction et l'élection vont d'une certaine façon ensemble, mais ce rassemblement est censé intervenir uniquement à la fin des temps, ce qui, bien évidemment, n'est pas non plus pour nous rassurer, ni pour rassurer les Hébreux de l'époque. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'une malédiction très importante, véritablement être dispersé jusqu'à la fin des temps. Cependant, cette acception qui véritablement prend sens au sein d'une théologie du judaïsme est assez rapidement concurrencée par une autre appropriation qui est l'appropriation chrétienne. C'est-à-dire que non seulement le terme de diaspora apparaît dans ce que l'on connaît comme étant l'Ancien Testament, mais il apparaît également dans le Nouveau Testament, et cette fois-ci avec une appropriation qui est résolument chrétienne, où cette fois-ci, donc au cours en gros du 1er et du 2e siècle de l'ère chrétienne, diaspora vient prendre un tout autre sens, puisqu'il vient désigner en quelque sorte la situation de dispersion des chrétiens de par le monde. Et il vient de cette manière-là évoquer la façon dont les chrétiens sont désormais le peuple élu, ce que ne sont plus les juifs, puisque les juifs sont censés avoir été précisément dispersés après la destruction la deuxième destruction du temple de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, cette dispersion et cette destruction du temple est la preuve, en quelque sorte vivante, si j'ose dire, que les juifs ne sont pas le peuple élu qu'ils prétendent être, et que c'est bien évidemment le peuple chrétien qui l'est. Ceci dit, cette appropriation chrétienne ne dure que très très peu de temps, c'est-à-dire que dès le IIe siècle, les pères de l'Église renoncent à ce terme-là et le réservent pour les juifs. Ce qui est important parce que du coup, diaspora, à partir du IIe siècle, prend une couleur ou une tonalité qui est purement négative, qui ne vient que signaler la malédiction et qui a donc complètement perdu cette ambiguïté de la malédiction et de l'élection. Pendant une assez longue période, le terme est relativement peu utilisé. Il est utilisé uniquement en grec, donc dans la partie orientale de l'Empire romain, où on le trouve de temps en temps, mais véritablement de façon très très, 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 très disséminée, avant d'acquérir une sorte de nouvelle vigueur dans un autre contexte religieux, qui est celui de la Réforme, et en particulier d'un groupe qui est celui des frères moraves, qui, à partir du XVIIIe siècle, va récupérer le terme avec, encore une fois, un sens complètement différent dont on trouve encore des traces aujourd'hui. Ce qu'ils appellent la mission de diaspora consiste en fait pour les frères moraves à établir, à consolider le lien qui existe entre les frères moraves vivant en minorité dans des pays catholiques. Donc là, on a d'ores et déjà la question de la minorité qui vient se mettre en place, qui n'est pas véritablement définie comme minorité à ce moment-là. Il parle d'île, en fait, mais l'idée est exactement la même. Il s'agit d'assurer, par l'intermédiaire d'une sorte de mission itinérante qui s'appelle diaspora, il s'agit d'assurer la connexion, dirait-on aujourd'hui, le lien entre ces différentes îles protestantes. Donc vous voyez que même à l'intérieur de ce domaine religieux, on a déjà, entre les acceptions juives, chrétiennes et protestantes, on a déjà affaire à trois visions qui sont radicalement différentes. En gros, pour brosser le trait très très vite, jusqu'à la fin du XIXe siècle et les débuts du XXe siècle, diaspora est un terme qui est quasiment exclusivement religieux. Il ne commence à se séculariser qu'à partir du moment où il entre dans le vocabulaire académique. Et cette entrée dans le vocabulaire académique se fait très progressivement, en gros, entre les années 1910 et 1970, et ça se fait très lentement. La particularité de ce moment-là, qui a été sans doute un des plus pénibles dans la rédaction de cet ouvrage, c'est que précisément l'entrée du terme se fait par des séries disciplinaires parallèles qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on va le voir apparaître en anthropologie à un moment, et il ne va y avoir que les anthropologues spécialistes du monde chinois qui vont l'utiliser. Et à un autre moment, il va entrer en sociologie et il va en quelque sorte se spécialiser, mais ne pas se diffuser au-delà de ce cercle académique-là. Donc vous avez, jusqu'aux années 1970, et même on pourrait dire la fin des années 1970, une particularité de l'usage du terme qui est cet usage académique dans des séries disciplinaires limitées et souvent, ce qui me paraît le plus important, sans que n'en soit donnée une définition. C'est-à-dire que le mot, d'une certaine façon, parle tout seul. Il n'a pas besoin d'être véritablement conceptualisé au sens où il lui faudrait une définition stricte, générique, à partir de laquelle il serait possible de dire, justement, comme tu le disais, qu'est-ce qu'une diaspora et finalement quels peuples peuvent en relever et quels peuples n'en relèvent pas. Et c'est un des enjeux très très importants qui se déroule à partir de la fin des années 1970 et jusqu'au milieu des années 1990, c'est-à-dire la progressive cristallisation justement d'une entreprise de définition. avec plusieurs définitions très différentes les unes des autres qui vont être données, les unes fonctionnant avant tout sur une sorte de vision ou de définition un petit peu lâche, consistant à dire que finalement est diaspora tout peuple ou partie d'un peuple qui estime avoir un lien avec une terre, une langue, un État, et qui continue à maintenir une certaine forme d'institutionnalisation de ces liens, ou alors qui maintient un imaginaire en lien avec cette terre ou avec cet État. A contrario, vous allez avoir des tentatives qui, elles, sont beaucoup plus typologiques, c'est-à-dire qui vont considérer qu'il faut respecter un certain nombre de critères pour être défini comme une diaspora. Par exemple, il faut qu'il y ait une expérience traumatique à l'origine, ce qui pourrait venir rassembler d'une certaine façon aussi bien le cas des Arméniens que celui des Juifs, que celui des Palestiniens. D'autres qui vont considérer que au-delà, ou en tout cas on peut ajouter d'autres critères à ce critère de l'expérience traumatique de la migration, et qui vont insister sur l'existence justement d'un imaginaire de la catastrophe, ou qui vont insister sur l'existence de liens institutionnels pour pouvoir véritablement parler d'une diaspora en tant que telle, alors que les autres peuples d'une certaine façon n'en seraient pas. Donc on a ici une tentative de définition qui vise à tenter d'en faire véritablement un concept, c'est-à-dire un terme dont la définition permet d'englober certains cas, certaines populations, et de ne pas les englober toutes. Il ne s'agit pas d'en exclure, il s'agit simplement de dire, voilà, tout le monde n'est pas une diaspora, et toute population n'est pas une diaspora. Parce que d'une certaine façon, on pourrait dire que si toute population est une diaspora, aucune n'en est une. C'est l'un des paradoxes auxquels nous sommes tous confrontés en tant qu'universitaires. Il nous faut, à un moment ou à un autre, définir les situations dont nous parlons, et si nous définissons, si nous n'avons pas justement ces concepts permettant de trier et de faire un choix à l'intérieur du fourmillement des faits et des situations, eh bien, nous sommes absolument dans l'impossibilité de tenter de monter en généralité. Donc, cette tentation, d'une certaine façon, de la définition va se poursuivre jusqu'au milieu des années 1990, avec notamment une sorte de tension qui va se créer progressivement entre ce que les spécialistes de la question appellent les versions centrées de la diaspora et les versions décentrées de la diaspora. Je m'explique très rapidement. Les versions centrées sont celles qui généralement considèrent qu'il ne peut exister une diaspora qu'à partir du moment où elle a un centre, un point d'origine, un état, une terre, et qu'il y a un lien entre cette terre et les populations qui revendiquent soit leur appartenance, soit leur lien, soit leur allégeance, ou tout au moins leur affection vis-à-vis de ce centre. À l'opposé de cette vision se sont développées à partir des années 1980, mais elles ont pris de plus en plus d'importance au cours des années 1990, ce qu'on a appelé des visions décentrées de la diaspora. Elles s'appuient essentiellement sur un mouvement qui est celui des Cultural Studies britanniques, et elles définissent d'une certaine façon la diaspora comme justement étant l'inverse de l'existence d'un centre. C'est-à-dire que pour eux, précisément ce qui fait la particularité d'une diaspora, c'est la déterritorialisation et l'absence de centre vers lequel revenir. Donc il est évident qu'on a là deux définitions qui, en tant que telles, sont absolument aux antipodes l'une de l'autre. Très souvent, ça n'est pas une règle non plus, mais c'est assez souvent le cas, voilà pourquoi j'insiste là-dessus, on estime que le paradigme ou le cas archétypal de cette version centrée de diaspora est la diaspora juive, et que le cas archétypal de cette version décentrée de la diaspora est la diaspora noire. Parce qu'il faut savoir, pour aller très vite, que dans cette vision de la diaspora noire qui apparaît chez des auteurs comme Stuart Hall ou chez Paul Gilroy, par exemple, l'adjectif noir n'est pas un adjectif racial au sens strict. Il ne correspond pas à une vision liée à la couleur de la peau et ne correspond pas nécessairement non plus à un lien direct avec l'Afrique. Ce sur quoi ils insistent, c'est sur la dimension culturelle des diasporas. C'est-à-dire en quoi est-ce qu'il existe, de par le monde, un espace de représentation et de débat sur ce que cela signifie qu'être noir. Et pour eux, ce serait à partir de ce noyau-là, de ce débat sur ce que cela signifie qu'être noir, que véritablement se déploierait cette diaspora noire. Très brièvement, pour finir, parce que vous pouvez avoir l'impression du coup que là, on est passé d'un terme religieux à un terme conceptuel, à la naissance de ce que l'on appelle en gros depuis les années 1990 les Diaspora Studies, qui aux États-Unis ou en Grande-Bretagne font véritablement l'objet de cursus entiers, ce qui n'est pas le cas en France. Je voudrais signaler une autre forme d'acception sur laquelle on aura peut-être le temps de revenir au cours des questions. C'est une acception politique. Et cette acception politique, elle va présenter la particularité de s'appuyer sur les conceptualisations développées par les universitaires. Et on voit se mettre en place, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, donc il y a assez peu de temps, on voit se développer au sein d'organisations internationales telles que l'Office pour la migration internationale, la Banque mondiale, l'UNESCO ou l'Union européenne, on voit se développer tout un lexique autour des diasporas, avec une définition très particulière, notamment au niveau de l'Office pour les migrations internationales et de la Banque mondiale, puisqu'il s'agit en fait, en utilisant ce terme, de créer un lien très très particulier entre les États dits émergents et leurs populations vivant dans les autres pays. Concrètement, ce qu'on dit à ces États, c'est « vous avez des diasporas ». Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, vous en avez. C'est-à-dire que tous vos ressortissants vivant à l'étranger, et y compris les descendants de vos ressortissants, même quand ils n'ont pas la nationalité de votre pays, sont des populations qui peuvent vous aider à vous développer. Et vous pouvez utiliser l'argent qu'ils envoient. Et vous devez les utiliser pour les inclure dans l'espace de définition de ce qu'est votre nation, c'est-à-dire que vous devez leur donner des droits en termes d'obtention de la nationalité, en termes de facilité d'investissement, en termes de représentation dans les parlements, par exemple, en termes de constitution de banques de données, justement, de ces populations. Et donc, il y a une véritable incitation par le haut, auprès de ces États, à ce qu'ils développent ces contacts avec leur diaspora. Avec cette fois-ci, vous l'aurez sans doute remarqué, une vision qui est très particulière, puisque ces diasporas, du coup, elles sont à la fois centrées, puisqu'il y a bien un État et des populations qui vivent dans d'autres pays, mais d'un autre côté, on ne demande pas à ces populations de revenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de retour. On considère qu'on vient créer, matérialiser par l'usage de ce terme, un lien qui doit permettre à des États qui n'ont pas nécessairement les moyens internes de se développer économiquement, de bénéficier de cette manne financière venue de l'étranger, ou plus exactement venue de l'étranger spatialement parlant, mais qui vient d'un autre côté de gens qui font partie de cet espace de la nation, ou qui peuvent être considérés comme faisant partie de cet espace de la nation. Et il y a là, ici, de la part des organisations internationales, quelque chose de très très intéressant, c'est qu'en procédant de cette manière-là, c'est aussi une certaine façon de se débarrasser de la question du fardeau du développement. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent, il est beaucoup plus démocratique pour vous d'inclure dans votre organisation politique et constitutionnelle ces populations-là qui, de surcroît, vont vous permettre de vous développer et, accessoirement, vont nous permettre de vous donner moins d'argent pour assurer votre développement. C'est une vision un peu cynique, mais ceci dit, on la trouve de manière pratiquement explicite dans un certain nombre de textes d'experts de la Banque mondiale. Donc, en dressant ce très rapide panorama, et je m'arrête ici, je voulais simplement vous montrer à quel point on a affaire à une déclinaison extraordinairement large de ce terme, au point que finalement on peut se demander si, puisque c'est un petit peu la question également de ce débat, est-ce que c'est un monde en devenir d'une certaine façon, toute la question est de savoir, un, ce que l'on appelle une diaspora, et vous vous rendez bien compte qu'à partir de là les choses commencent à se compliquer très sérieusement, ou alors se demander si tout simplement nous ne faisons pas tous partie non plus le sachant ou non d'une diaspora. Je rappellerai simplement une des phrases d'Edgar Morin dans un de ses derniers ouvrages qui disait que finalement l'humanité et même la Terre n'est d'une certaine façon qu'un éclat de la diaspora cosmique. Je vous remercie.
Merci, c'est Stéphane, pour cette absence de définition, enfin plutôt pour cette histoire des définitions successives de cette notion, donc on l'a compris, qui est toujours en devenir. Et bon, j'ai pas beaucoup de travail à faire parce que tu as en plus fait la transition avec ce dont va nous parler Helmut Mood, qui est donc professeur d'économie à Paris Dauphine et qui s'intéresse lui donc au poids des diasporas sur notre actuelle mondialité, avec donc un travail sur le lien entre l'émigration et notamment le décollage des économies. Je cite simplement quelques ouvrages. 2011, mondialisation et délocalisation des entreprises. Je répète, mondialisation et délocalisation des entreprises chez La Découverte. L'Europe et ses migrants, ouverture ou repli. L'Harmattan 2007. Et récemment, l'auteur d'un rapport pour Terra Nova, qui n'est pas encore publié, pour une politique alternative des migrations. Je te laisse la parole.
Merci infiniment. C'est vrai que Stéphane nous a vraiment facilité la transition parce que, effectivement, la manière dont les économistes abordent la question des diasporas, c'est exactement celle qu'il a énoncée dans sa dernière acception, même si la raison pour laquelle cette terminologie est maintenant usitée est plus compliquée que ce qu'il en dit en termes de causalité, c'est-à-dire une injonction qui serait simplement dirigée en direction des pays d'origine pour qu'ils intègrent dans leur stratégie de développement ces diasporas. Cet aspect est vrai, je ne le sous-estime pas, mais je vais vous essayer de vous dire pourquoi c'est plus compliqué. Donc, mais merci beaucoup en tout cas pour m'avoir facilité les choses. En réalité, je voudrais aborder trois points. Le premier, c'est quel est le poids de ces diasporas dans l'acception qu'on vient de retenir et pas dans l'aspect riche qui a été donné au préalable, dans la mondialisation, et quels sont les rapports qu'entretiennent migration vus au sens de la diaspora et mondialisation. Deuxièmement, qu'est-ce qui différencie les diasporas qui ne reviennent pas et celles qui reviennent, et quel est l'impact de ces retours de migration ou de diaspora, entre guillemets, je reviendrai sur la définition après, sur le développement. Et troisièmement, pourquoi les politiques d'immigration sont dans l'impasse? Et je ne parle pas seulement des politiques des pays d'origine en direction de leur diaspora qui serait susceptible d'être étranger, mais également des pays d'accueil, en particulier la politique française en l'occurrence, mais aussi européenne, face à la réalité de ces migrations internationales. Donc c'est ça mes trois points que je voudrais essayer de développer dans le temps qui m'est imparti. Le premier point, c'est quelles sont d'abord quelle définition on peut donner de cette diaspora, de cette alors pour les économistes, si vous voulez, la notion de diaspora est très récente par rapport à celle qui a été utilisée par les historiens ou les sociologues, parce que elle conduit à élargir la notion de migration, tout simplement. On a une définition de la migration qui est très simple. En France, par exemple, tout immigré est, selon la comptabilisation de l'INSEE, par exemple, est quelqu'un qui est né à l'étranger, ayant émigré en France, ayant une nationalité étrangère ou ayant adopté la nationalité française. Donc c'est la notion de pays d'origine de naissance et de mobilité en réalité qui définit le terme de migration internationale. Et ces migrations internationales, on peut les chiffrer de l'ordre de 220 millions à peu près, dont la moitié sont des migrations sud-sud et l'autre moitié, grosso modo, sont des migrations qui partent du sud vers le nord. Grosso modo, quand même, les migrations sud-sud sont vraiment très importantes puisque si vous regardez un peu les choses de près, l'ensemble des migrations internationales, c'est 220 millions. Les migrations internes, intranationales, entre, à l'intérieur des pays, c'est 720 millions, 750 millions exactement. Donc c'est pratiquement presque 3,5 fois plus. Donc les gens ne partent pas si facilement que ça, même si globalement vous avez donc ce chiffre de 220 millions de migrants qui représente au fond 3% de la population mondiale. Ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à il y a 50 ans où ça représentait 2,5% de la population mondiale. Donc au gros, le poids des migrations internationales défini au sens strict du terme, c'est-à-dire de gens qui ont quitter leur pays pour aller vivre dans un autre pays, ayant pris ou pas la nationalité du pays d'accueil, ça représente 3% de la population mondiale aujourd'hui. En valeur absolue, bien sûr, ça a augmenté. C'était 100 millions il y a quelques trentaines d'années, et maintenant c'est 220 millions. Si on regarde le commerce international dans le produit intérieur brut, si vous voulez, quelle est la part du commerce international dans la production de richesses, ça a été multiplié par 3 dans la même période. En 60, on était 10% et aujourd'hui, on est à 30% de la production mondiale. Donc la dynamique des composantes de la mondialisation que sont le commerce, l'investissement en direct étranger, les échanges de technologies et de connaissances ou même les flux financiers sont beaucoup plus importants que les dynamiques des migrations, parce qu'effectivement, il y a des restrictions majeures à l'encontre des migrations. C'est la composante de la mondialisation, la migration internationale, qui est la plus restreinte. Alors la notion de diaspora, c'est une notion plus large, parce que les économistes la définissent comme finalement un groupe de migrants ou de descendants de migrants qui partagent une ou plusieurs caractéristiques importantes, pays d'origine, ethnicité, religion d'origine, langue, politique, et qui vivent ailleurs que dans leur pays d'origine. Donc ça signifie simplement que la notion de diaspora consiste à élargir le lien qui existe entre ceux qui sont à l'étranger et leur pays d'origine pour en déceler les relations, les échanges commerciaux, d'idées, politiques, institutionnelles qui sont en cours et qui sont réellement existent en effet à la troisième génération, à la quatrième génération, pour continuer à avoir des relations avec son pays d'origine. Donc c'est à la fois centré et décentré d'une certaine manière, mais c'est parce qu'aussi il existe maintenant des bases de données qui permettent d'appréhender plus largement la question des diasporas. Alors, donc ce n'est pas seulement une injonction, c'est aussi parce que les économistes sont restés et ont mal influencé les politiques publiques en matière de migration. La vieille idée qui a été derrière tous les accords de libre-échange, que ce soit l'accord de libre-échange euro-méditerranéen, les accords de Barcelone en 1995, que ce soit les accords entre les États-Unis et le Mexique, l'ALENA, l'ensemble des accords nord-sud d'intégration régionale avaient pour idée directrice, pas voilée, hein, mais vraiment complètement affirmée, qui était que la relation entre les migrations internationales et le commerce international, ou la mondialisation, pour être beaucoup plus large, est une relation de substitution. En d'autres termes, il suffirait d'ouvrir les frontières pour le commerce, pour les marchandises, pour les investissements directs, pour que les candidats à l'émigration n'émigrent plus et restent chez eux pour profiter des effets, du bienfait du libre-échange, etc. Mais évidemment, les choses ne se sont pas passées comme ça, parce qu'en réalité, il existe une belle relation de complémentarité, tous les travaux le montrent, entre migration et mondialisation. C'est-à-dire que dès lors que vous ouvrez les frontières pour les échanges commerciaux, dès lors que vous ouvrez les échanges pour les investissements directs, bah, vous autorisez des mouvements de population. Donc il y a trois mouvements, si vous voulez, qui peuvent être mobilisés pour analyser les liens dans mon premier point là, entre mondialisation et diaspora ou migration. Le premier, c'est que la mondialisation, en ouvrant les pays sur les échanges commerciaux et les investissements directs, fait rencontrer des besoins de complémentarité par exemple, les besoins démographiques entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée, les besoins démographiques entre le Mexique et les États-Unis, les déséquilibres entre vieillissement de la population d'un côté et population jeune de l'autre, des effets qui sont liés tout simplement au fait que, contrairement à ce qu'on pense, les migrants ne partent pas des pays pauvres, très très peu, mais partent plutôt des pays à revenus intermédiaires, parce que pour pouvoir émigrer, il faut investir dans l'émigration, dans l'éducation. C'est pour ça que les migrations de qualifiés sont de plus en plus importantes. Les migrations féminines aussi, hein, plus de la moitié des flux mondiaux de migration sont féminines aujourd'hui, tout simplement parce que, au fond, le fait de pouvoir autoriser, baisser les coûts de transactions, de transport, ben, ça autorise des gens qui ne pouvaient pas émigrer jusque-là et qui peuvent désormais le faire. Donc il y a un aspect libéralisation des services, libéralisation du commerce, qui engendre finalement aussi des mouvements de population ipso facto. Et puis troisième aspect qui est tout à fait intéressant dans la relation de causalité qui existe entre les migrations internationales et les diasporas en général et le développement ou la mondialisation, c'est au contraire quelque chose qui a finalement été très très bien analysé récemment, parce que nous disposons de bases de données individuelles, en particulier à partir d'enquêtes qui permettent de faire ce travail. C'est que jusqu'à présent, on a eu tort de considérer que l'ouverture commerciale allait se substituer aux migrations internationales, car en effet, les choses sont au contraire très complémentaires. Mais en plus, on a sous-estimé, et c'est là où je vais avoir une nuance par rapport à ce que vous disiez, on a sous-estimé l'impact inverse, c'est-à-dire l'impact des diasporas sur le développement et sur le commerce. Donc ça n'est pas qu'une injonction, alors qu'elle ait été utilisée de manière opportuniste par les organisations internationales, en particulier pour certains, pour le FMI en particulier, plus que pour la Banque mondiale, dans une tentative de substituer finalement à l'aide publique au développement les transferts de fonds des migrants qui représentent 350 milliards de dollars aujourd'hui, la première entrée de capitaux dans les pays du Sud, si on enlève la Chine et l'Inde parmi les pays qui accueillent les investissements directs étrangers, la première source d'entrée d'argent, c'est l'argent des immigrés. C'est vraiment comme ça que ça se passe. L'argent de la diaspora, parce que c'est pas seulement des immigrés. Et donc, c'est un facteur de développement, de réduction de la pauvreté transitionnelle, d'éducation qui est tout à fait important, objectivement, indépendamment des injonctions qu'on peut en faire. Donc, ce troisième canal est un canal qui avait été sous-estimé jusqu'à présent, car nous n'avions pas les données pour regarder quel est l'impact de ces migrations, de ces diasporas sur le commerce international, sur les investissements étrangers, sur le développement. Jusqu'à présent, d'ailleurs, le débat de la campagne électorale l'a bien montré, on s'est focalisé sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail. Alors, c'est l'impact sur la baisse des salaires, croyance évidemment erronée, car ça n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas mon point de vue ici, mais ce serait l'objet d'une autre discussion. Mais sur le chômage, est-ce que les immigrés prennent ou pas la place des autochtones, etc. Ce débat-là, du point de vue des économistes, a été relativement réglé parce que les effets de l'immigration sur le marché du travail sont extrêmement mineurs, positifs ou négatifs, peu importe, je ne rentre pas dans le détail. Mais c'est vraiment absolument mineur, ce que les économistes dans leur jargon appellent les élasticités, si vous voulez. Quand vous faites rentrer 10% de gens, en quoi ça modifie le salaire des autochtones? Bah, pas grand-chose, vraiment presque rien. En quoi ça modifie le marché du travail? Pas grand-chose non plus. Et par contre, les effets des diasporas sur le commerce, sur l'investissement, bah, c'est des effets 20 fois plus importants en termes de création d'échanges, de création de flux d'investissement direct de la part des diasporas, de création d'idées dans les révolutions arabes récemment, par exemple, on l'a vu. Simplement, ce qui a été montré dans ce rapport entre diaspora et commerce et développement, c'est que la relation de causalité, elle est plus nuancée et plus fine que cela. C'est-à-dire que ce ne sont pas les diasporas qui déclenchent les mouvements de rattrapage des économies, non. On l'a vu dans le cadre de la Thaïlande, il y a des expérimentations d'une certaine manière, de l'Inde. Ce ne sont pas les diasporas qui les déclenchent. En revanche, les diasporas les accompagnent. Et ça, c'est tout à fait juste, que ce soit pour les rattrapages économiques ou les rattrapages politiques. Dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, on a vu un rôle, finalement, des diasporas qui est un rôle accompagnateur ex post, après coup, une fois que les choses ont été déclenchées de l'intérieur. Mais ça a été tout à fait intéressant comme jonction entre les diasporas au sens large, au sens de justement de la manière dont je les ai un peu définis ici, et les pays d'origine. Donc voilà, finalement, ça n'est pas qu'une injonction, c'est aussi une réalité qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, les migrations internationales, et plus généralement, généralement les diasporas, jouent un rôle paradoxalement plus important dans le rattrapage et le développement que ne le jouent les autres composantes de la mondialisation qui sont pourtant les plus ouvertes, les plus libéralisées. Donc il n'y a plus de frein à la mobilité des capitaux, il n'y a presque plus de frein à l'investissement direct étranger, ni aux circulations des idées grâce à Internet, etc. Mais quand vous regardez la situation des pays du Sud, ils sont marginalisés du point de vue des composantes principales de la mondialisation. En revanche, ils participent davantage à la mondialisation par les migrations, aussi restreintes, aussi restrictives, aussi stigmatisées, etc., soient-elles. Donc il y a vraiment là une leçon de choses, en quelque sorte, de travaux empiriques qui sont tout à fait intéressant et qui ont fait qu'ensuite l'exploitation qui en a été faite du point de vue des politiques économiques en direction des pays de développement, c'est de leur demander en effet, comme vous le disiez très justement, de prendre en charge leur développement, non pas grâce à l'aide publique au développement, non pas grâce à des demandes de déprotection des marchés agricoles des pays du Nord, mais en s'appuyant sur leur diaspora. Et le Maroc, par exemple, a mis en place beaucoup d'institutions, la fondation Hassan II, etc., en direction des diasporas. L'Algérie commence à vouloir faire la même chose, développer des stratégies en direction des diasporas en leur disant ne revenez pas, hein, mais venez nous accompagner dans le processus. Et c'est pas si mal finalement comme paradoxe en dehors des aspects, disons, purement d'exploitation. Voilà. Alors, je passe peut-être sur le deuxième point parce que sinon je vais passer beaucoup trop de temps sur la question des retours et des aides. Ce qui est intéressant à regarder sur les retours, enfin très rapidement, c'est que quand on voit justement le paradoxe merveilleux qu'on peut observer, c'est que ne reviennent pas ceux que l'on incite à repartir. Donc ça, c'est connu, mais quand on a des données précises, il vaut mieux le dire. C'est-à-dire que quand toutes les politiques d'incitation au retour sont inefficaces. Voilà, vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils reviennent chez eux, ils ne reviennent pas. Donc, en revanche, ceux qui ont les plus d'impact en termes de retour et en termes de retour, pas seulement économique, mais aussi de retour physique, ce sont des gens qui ont au contraire une liberté de circulation. Voilà. Et ça, c'est un paradoxe merveilleux, parce que plus vous êtes dans la stabilité de vos statuts, vous avez par exemple la nationalité, vous avez une probabilité beaucoup plus grande d'avoir des relations avec votre pays d'origine que lorsque vous êtes dans un permis de travail de 3 ans. Voilà. En gros, plus vous êtes libre de circuler, d'aller et revenir, plus vous avez des actions en faveur de votre pays d'origine en termes de développement, parce que vous avez et ça, c'est les travaux sur données individuelles le montrent bien, parce que vous avez tout simplement des facteurs subjectifs qui interviennent, qui ne sont pas des facteurs objectifs, qui sont liés à l'attachement au pays d'origine, d'où la définition large de l'immigration. En fait, un émigré dans le sens de la diaspora, c'est toute personne qui est attachée de près ou de loin à son pays d'origine, par la langue, par la culture, et qui a envie de faire des choses. Par exemple, quand on est de la deuxième génération de l'immigration kabyle en France, on participe au comité de village alors qu'on n'en bénéficie pas, on cotise pour qu'il y ait des transferts vers le pays d'origine. C'est juste un aspect attachement. Bon, eh bien, ceci est tout à fait important à regarder, parce que quand on voit les politiques, que ce soit la carte Sarkozy, 3 ans renouvelable une fois sur les talons, que ce soit les cartes, l'arsenal des politiques publiques aujourd'hui avec des multiples statuts, on voit que ces politiques sont non pas seulement inéquitables dans certains cas, la circulaire Guéant récemment, ou ce qui continue à se faire aujourd'hui, c'est simplement pas seulement inéquitable, mais c'est aussi pas efficace économiquement. C'est-à-dire qu'il y a un triple gain à la mobilité, et ce triple gain, c'est un gain pour les pays d'accueil, un gain pour les pays d'origine, et un gain pour les migrants eux-mêmes, qui, au lieu d'être déclassés sur le marché du travail, peuvent utiliser des opportunités. Pour ça, il y a une politique d'immigration à revoir, complètement différente, qui ne soit pas focalisée uniquement sur les aspects disons stigmatisants et de peur, qui sont d'ailleurs tout à fait erronés du point de vue de la réalité, puisque quand on voit le débat qui a eu lieu pendant les élections présidentielles, on est quand même absolument frappé de voir que tout le monde s'est aligné sur la thèse du trop d'immigrés, alors que la France se place parmi c'est l'avant-dernier pays après le Japon en termes d'immigration, d'accueil en flux d'immigration par rapport à sa population. 0,2% de sa population contre 0,67% pour la moyenne des pays de l'OCDE. Donc c'est pratiquement 4 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. En immigration, entre guillemets, en stock, c'est exactement la même chose. On a des marges de manœuvre en termes d'immigration qui sont tout à fait importantes, si on veut avoir une politique d'immigration qui est digne de ce nom. Et c'est la raison pour laquelle je termine sur mon dernier point et je conclurai là-dessus. Pourquoi, face à cette réalité d'immigration internationale vue sous l'angle des diasporas, des effets qu'elles ont sur l'épargne, etc., les politiques d'immigration, pas seulement de celles des pays d'origine, Les politiques des pays d'origine, elles ne sont pas efficaces. Elles sont souvent fondées sur des stratégies de rente. Alors on va utiliser les transferts de fonds des migrants parce que ça représente 10% du PIB marocain, du PIB, pardon, des richesses créées, ou 14% du PIB du Mali, ou, etc. Et donc c'est une manne qui permet finalement de subvenir à un certain nombre d'équilibres en termes d'entrée de devises. Et on se satisfait de cela et on pousse finalement, on l'a vu dans les révolutions arabes récemment, on pousse les élites à la dérive qui n'ont pas de rente sur le marché du travail des qualifiés à partir. Et donc il y a une politique négative des États dans les pays arabes, mais pas seulement, en direction des migrations, des populations diplômées, mais qui n'ont pas de place sur le marché du travail local. Donc ça, c'est tout à fait... Il y a une volonté d'utiliser cette rente. Sans plus. Mais du point de vue des pays d'accueil, il n'y a pas non plus d'efficacité. L'Europe, par exemple, la Commission européenne a beaucoup poussé. Et là, la Commission européenne est finalement un peu plus consciente des avantages des migrations que ne le sont les États nationaux, en particulier la France. Mais par exemple, la promotion qui a été faite de la durée d'absence, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est qu'ils disent, si vous avez un statut de 5 ans, de permis de travail, par exemple, ou de permis de résidence dans un pays, vous avez parfaitement le droit d'aller et revenir pendant ces 5 ans, parce que ça correspond à cette notion, justement, de diaspora. C'est-à-dire que vous êtes libre d'aller et revenir si vous êtes portable de vos droits. Donc la notion, la question de portabilité des droits, de transférabilité des droits, qui ne soit pas associée à des durées de présence courtes, mais qui soit au contraire associée à votre statut, c'est une question qui aurait dû être posée pour une politique d'immigration beaucoup plus efficace que celle à laquelle on a à faire face. En réalité, promouvoir la double nationalité, promouvoir l'accès rapide à la nationalité, comme le font les Canadiens ou... les Américains même, par rapport à ce qui se fait en Europe, c'est plus efficace parce que ça donne des horizons d'investissement temporel aux gens beaucoup plus grands dans le pays d'accueil. Et on voit que plus les gens sont qualifiés, plus ils investissent dans le pays d'accueil. Mais aussi dans le pays d'origine, parce que le fait de pouvoir aller et revenir librement ne vous verrouille pas sur place. Donc là, il y a, du point de vue de ces politiques, quelque chose de tout à fait intéressant à regarder de près. Et j'espère que les choses vont un peu se défaire, parce qu'en fait, le vrai problème... En France en particulier, c'est la combinaison perverse qui existe entre une politique d'immigration instrumentalisée de court terme en direction, avec des signaux en direction d'électorats populaires et populistes, sur en particulier tous les aspects liés à l'identité, aux migrations qualifiées ou non qualifiées, etc. Et puis la volonté aussi de quand même de rentrer dans la course à la compétition mondiale pour attirer les compétences à travers, par exemple, une carte sur les talents où on attirerait les compétences. En réalité, le jeu est perdant-perdant, parce que ce qui se passe, c'est que cette politique extrêmement agressive à l'égard de l'immigration en général, des diasporas, puisque... sont en permanence visées des populations en fonction du critère de religion, de langue, etc., et pas seulement du critère de statut d'immigration stricto sensu. Et de ce fait, ce que montrent les travaux d'enquête en particulier qui ont été faits sur cette question, c'est que ça a un effet de découragement terrible des candidats à l'émigration très qualifiés qui, eux, choisissent des pays qui leur donnent des avantages et qui ne les mettent pas dans des situations de stigmatisation. Donc la stigmatisation sur les moins qualifiés ou sur les populations plus fragiles induit un effet de perte d'attractivité des compétences. Et quand on regarde la position de la France vis-à-vis du Royaume-Uni, par exemple, ou vis-à-vis des États-Unis ou du Canada, la France est en position de perte assez, assez radicale. Donc voilà un peu comment, en quelque sorte, l'historique récent, parce que c'est très récent, du lien entre migration, diaspora et mondialisation, tel que les économistes ont pu l'observer. Merci.
Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Et donc on voit que la diaspora n'est pas nécessairement une malédiction ni pour celui qui est en diaspora, ni pour l'État et la société. Bon, on ne va pas dire d'accueil, on va dire de réception, hein, pour le coup, parce que société d'accueil, pas pour tous. Ce que tu disais de la France, c'est la perversité de certaines politiques, mais des grands pays dits d'immigration comme les États-Unis ont beaucoup de mal à réformer leur loi sur l'immigration. On l'a vu, George Bush avait tenté déjà un permis aux travailleurs invités, pour une traduction française approximative, mais ça n'a pas abouti. Et Barack Obama, fils de Kenyan, dont la tante était sans papier On le rappelle, quand il était candidat il y a 4 ans, et pas parvenu non plus à ses fins sur ce... Et on le voit bien, hein, quand on... La liberté de circulation, c'est aussi un moyen de permettre de lutter contre une forme de clandestinité. Si les Mexicains savent qu'ils peuvent rentrer chez eux quand ils veulent, ils reviennent. Mais si effectivement ils se disent « je repars dans mon village d'origine et je ne peux pas repartir aux États-Unis », on voit un peu les effets pervers que ça peut... Je vous propose de poser des questions, en commençant toujours par la deuxième question. La première, on va attendre trop longtemps. Alors, on fait passer un micro.
Merci. J'aurais deux questions en fait. La première, c'est par rapport à l'écriture de Diaspora. On réservait à un moment donné Diaspora avec un D majuscule pour la diaspora juive. Et moi, j'aimerais savoir si on pourrait étendre cette graphie pour l'ensemble des diasporas, enfin, des communautés qui sont expulsées d'un pays à cause de mouvements politiques, afin de les distinguer des autres diasporas, on va dire, diasporas indiennes, etc., qui seraient plutôt liées, on va dire, à des mouvements de population, mais qui sont aussi de faits économiques. Et puis la deuxième, c'est aussi éventuellement le problème qu'on peut soulever par rapport à l'utilisation de termes de diaspora, qui pose un problème par rapport peut-être aux communautés de deuxième, troisième génération, parce que j'ai l'impression que cela sous-entend systématiquement un lien par rapport au pays d'origine. Et mine de rien, après, il y a un développement de tous ces concepts d'acculturation, etc. Et j'aimerais bien savoir, comme on a des sociologues notamment, comment vous gérez ça, parce que c'est vrai que du coup, ça revient sur les problématiques d'ethnie, par exemple. On a tendance quand même à dire que les identités ne sont pas figées. C'est vrai qu'à partir du moment où on part sur les questions d'acculturation, etc., je me demande s'il n'y a pas un problème aussi dans l'utilisation de ce terme par rapport aux deuxièmes générations, parce qu'à l'origine, on l'utilisait pour des néo-arrivants, donc c'était logique. Mais là, maintenant qu'il y a des deuxièmes, troisièmes générations, il me semble que ça peut aussi peut-être poser problème.
Monsieur.
Merci. Enfin, si tout d'un coup, on se met à considérer que les personnes vivant en France étant d'origine algérienne comme une diaspora, ça change complètement la façon de voir les choses, et ça torpille même, on peut dire, l'idée de, à ce moment-là, d'intégration, etc. Non, enfin, est-ce que j'ai bien compris ou...
C'est moi.
Oh non, à vous, enfin, je sais pas.
Oh, Stéphane.
C'est une question qui est très très compliquée et qui en fait montre à quel point justement l'usage des termes est rarement neutre.
N'est jamais totalement neutre.
Voilà. C'est-à-dire que
c'est pour ça qu'il faut les définir.
Même quand on a la volonté de tenter au maximum, et c'est généralement l'objectif que se donnent la plupart des universitaires, c'est-à-dire de tenter de véritablement de définir le plus précisément possible un terme dont le sens serait avant tout conceptuel et académique et ne se mélangerait pas véritablement ou pourrait être distinct du lexique utilisé, je veux dire, dans le reste de la vie, c'est-à-dire à l'extérieur des milieux académiques, en fait, on n'y arrive pas. C'est un très vieux problème, c'est un problème qui est vieux comme les sciences sociales et qui est même encore plus vieux que ça. Et ça pose un gros souci, c'est que même quand on essaye de neutraliser les termes, on n'y arrive pas. Donc du coup, votre question, elle est totalement liée à ça, parce que j'ai l'impression à vous entendre que si d'un coup on se mettait à parler de diaspora algérienne, et on le fait déjà, pour vous, cela prendrait une autre dimension. C'est possible, mais ça dépend encore une fois de ce qu'on entend par diaspora, c'est-à-dire que l'État algérien n'a pas véritablement de problème à parler de sa diaspora algérienne, de la même façon que l'État marocain, qui, dans la fondation du CME, c'est-à-dire, enfin de l'ACME, c'est-à-dire de la communauté des Marocains à l'étranger, utilise très couramment ce terme. Tout dépend de ce qu'on met derrière, essentiellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut décrire par là une population qui, immédiatement, comme l'a rappelé Dominique Schnapper, parce qu'on viendrait en quelque sorte rabattre dessus le cadre stato-national, deviendrait du coup suspecte parce qu'elle serait entre deux allégeances. Vous savez, c'est la fameuse idée de la loyauté multiple qui est souvent considérée comme étant problématique. Ou alors, est-ce que simplement on prend état d'un fait qui sociologiquement est relativement facilement démontrable, que les descendants d'Algériens, Africains, de Vénézuéliens, de Mongols ou de Tcherkesses vivant en France, eh bien pour la plupart d'entre eux, pas tous, ressentent un attachement au pays dans lequel ils se trouvent, au pays qui souvent est celui de leur nationalité, la France, mais aussi au pays dont leurs parents sont venus, dont éventuellement ils parlent encore la langue parce qu'elle leur a été parlée pendant un certain temps quand ils vivaient à la maison, et dont éventuellement ils ont une image soit réelle quand ils y vont, soit absolument fantasmée. Donc, moi je ne suis pas certain, personnellement, que cela vienne profondément modifier l'impact politique lié à cette question de l'intégration, qui à mon avis de surcroît est une mauvaise question. Par ailleurs, parce que je veux dire, si on parle d'intégration, et j'en parle devant Dominique Schnapper qui connaît beaucoup plus ces choses-là que moi, l'intégration, c'est la question de l'intégration de n'importe quel individu au sein d'une société, et pas simplement la question de l'intégration des étrangers ou des enfants d'étrangers.
Vous voulez rajouter quelque chose pour...
Non, mais ouais. Je trouve que le débat est très compliqué parce que moi je suis parfaitement d'accord pour ne pas utiliser les termes. Moi je suis descendant d'immigrés, donc et même pas d'ailleurs parce que non, mais selon les critères de l'INED, je ferai partie de la génération et demie puisque je suis pas né en France. Donc, je suis arrivé à l'âge de 10 ans en France, donc voilà. Et je suis catégorisé comme étant dans la première et demie. Génération, voilà. Et pas la seconde.
Mais, donc il vaut mieux ne pas compter.
Exactement. Cela dit, je trouve que vous avez parfaitement raison, vous, sociologue en particulier, et vraiment, il faut vous en donner acte de bien définir les termes, et ce que nous, économistes, nous faisons assez rarement, puisque nous contentons de catégories qui sont mesurables.
Voilà, oui, mesurables. Et administratives.
Même si nous allons...
Les chiffres viennent de l'administration. Et
pas forcément, parce que de plus en plus, justement, la connaissance récente qu'ont les économistes des problèmes des diasporas, entre guillemets, encore une fois, ça vient plutôt de données individuelles. Et moins que de données administratives, statistiques. Et le fait de produire ses propres données quand on est académique, quand on produit une grosse enquête et qu'on la traite avec les méthodes, ça nous donne des choses un peu différentes. Par exemple, je prends l'enquête Théo, que vous connaissez, Trajectoire et origine, qui nous donne pour une fois quand même des connaissances sur l'origine de ces descendants d'immigrés. Et c'est pas si mal quand même que sans aller dans le... sans être dans un cas américain où on s'auto-déclare comme hispanique ou comme arabo, je ne sais pas quoi, etc., ou black américain, africain, eh bien, ce n'est pas si mal quand même de regarder cette histoire de discrimination. Donc le fait que nous ayons accès à cette enquête nous permet de, finalement, de faire le lien et de dénouer une question qui est la liaison qui est faite communément entre problématique de l'intégration, et je suis absolument d'accord pour vous dire que ce n'est pas un problème d'intégration, et bien les problèmes de discrimination, d'assignation à résidence, de population, qui sont, par ailleurs, non pas pour des raisons qui sont liées aux politiques d'intégration, qui auraient échoué, mais qui sont liées aux politiques d'aménagement du territoire, aux politiques de logement, aux politiques du marché du travail, etc., qui font qu'on a, en effet, aujourd'hui, un problème qui est minoritaire, mais qui a un coût élevé, de mise de certaines populations à résidence, assignées à résidence, dans des territoires où elles n'ont pas accès à l'emploi, n'ont pas accès à un certain nombre de choses. Donc est-ce qu'on mesure ça ou pas? Oui, je pense qu'il faut mesurer ça. Donc il faut avoir des enquêtes ponctuelles qui nous permettent de caractériser cela. Et donc de savoir si des enfants issus de l'immigration qui portent des noms particuliers, je m'appelle El Mouhoub Mouhoud, je suis issu de l'immigration algérienne, probablement que ça m'a beaucoup aidé à rentrer dans la recherche et l'enseignement supérieur, en passant le concours d'agrégation, en allant dans le privé, parce que j'étais, en effet, par mon nom, totalement refusé sur le marché du travail privé. Donc ils m'ont rendu un service énorme. Mais d'une certaine manière, ces histoires-là se mesurent. Et puis par ailleurs, du côté des pays d'origine, ils ont, de ce point de vue-là, une vision qui est aussi instrumentalisante de leur émigration que ne l'ont finalement les pays d'installation. Je reprendrai maintenant, je vous assure, votre terme. Je le préfère beaucoup plus, en effet.
C'est plus factuel,
absolument. Et on voit apparaître, par exemple, en Algérie, une stratégie qui est passée de l'amicale des Algériens en Europe, qui était en fait un organe de contrôle, à maintenant une vision dans laquelle on déculpabilise un petit peu l'émigration, parce que jusqu'à présent, la diaspora en général, hein, tout ce qui était en dehors du territoire algérien était considéré comme potentiellement quelqu'un qui allait à l'encontre de son pays d'origine. Je vous rappelle que Bouteflika a pris un décret contre les haragas, c'est-à-dire les émigrants algériens qui sont qualifiés, ingénieurs, machin, etc., mais qui partent dans des barques de fortune. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de leur donner, de les pénaliser de 10 ans de prison en cas de départ dans des barques de fortune. Donc on a une superbe instrumentalisation de cette question. Et si maintenant la notion de diaspora, alors je ne veux pas la défendre, mais je voudrais simplement vous en montrer la manière dont les États d'origine finalement l'adoptent aujourd'hui, est une manière qui l'aurait un peu imposée. Et qui n'est pas, et qui l'aurait un peu imposé de l'extérieur, c'est-à-dire aussi de la part de ces diasporas. Dans le cas marocain, c'est à peu près la même chose. Le roi du Maroc a dit, moi, ce ne sont mes sujets qui sont à l'extérieur, et pas des immigrés. Mmh. Donc le fait que finalement, c'est pas non plus, c'est assez libératoire que de se dire, ben, j'appartiens à une diaspora pour pouvoir me mouvoir dans ce transnationalisme mondial, mais en même temps, je suis effectivement français, etc. Et ce que je veux dire, c'est que la définition part aussi du moment de la question qu'on se pose et de l'histoire dans laquelle on se trouve et du type d'instrumentalisation qui est faite de ce phénomène.
Stéphane. Il y a un cas qui est souvent intéressant, c'est d'aller voir en fait les sites internet. Et là, ce ne sont pas forcément les sites des États ou des institutions étatiques qui sont les plus intéressants. C'est souvent les sites des... alors, je ne sais pas comment les appeler. Des minorités régionales. Je vous donne un exemple. Vous avez des sites de la diaspora bretonne qui sont tout à fait exemplaires, justement, de la façon dont c'est précisément le fourmillement mondial de cette communauté bretonne à l'étranger qui vient fournir le cœur de cette diaspora, sachant que pour eux, bien évidemment, l'usage du terme chez eux est aussi un moyen de remettre en cause non pas leur appartenance française, mais en tout cas leur simple rapport à l'État. Et on pourrait multiplier les cas. Le cas de la diaspora basque est très utile à cet égard. Deux très brèves remarques à propos de la question. Je souscris entièrement à ce que vient de dire Dominique Schnapper sur la distinction entre diaspora et exil, mais en revanche, c'est très très souvent confondu. Je vous donne un exemple très simple. Généralement, quand il y a des tentatives d'estimation de la population de la diaspora chinoise dans le monde, on utilise diaspora dans un sens purement statistique, ce qui fait qu'on vient par exemple absolument englober les sympathisants communistes qui pourraient être des militants du régime de Pékin et les exilés qui sont en revanche des opposants absolus au régime de Pékin. Ils sont tous englobés sous le grand parapluie de la diaspora, ce qui bien évidemment sociologiquement et historiquement n'a absolument aucun sens. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, toujours sur ces histoires linguistiques à propos des Hongrois, il y a une particularité, c'est que en hongrois, ils utilisent un terme différent pour désigner les minorités qui se trouvent dans les pays avoisinants, pour lesquels ils ont adopté depuis une vingtaine d'années le terme de diaspora, et pour désigner les Hongrois vivant dans les autres pays du monde, pour lesquels ils utilisent le terme d'emigratio. Donc ils font la différence, eux, entre émigration et diaspora, la diaspora n'étant d'une certaine façon que les minorités dans les pays limitrophes. Ouais. Ça pose c'est pas un problème, ça pose une question qui est particulière, c'est qu'en fait les opposants en question, au sens strict, ne sont pas exilés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une relation de rejet de la légitimité du pouvoir russe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement... Alors certains, oui, vous dites, sont réfugiés politiques.
Oui,
donc il faut voir. Mais alors, des réfugiés politiques qui, malgré tout, s'intégreraient ou s'intéresseraient à des institutions comme celle-là, je trouve qu'ils courent un gros risque. Donc je suis un peu surpris, mais si vous me dites que ça existe, je suis tout prêt à vous croire. Mais ça me paraît assez contradictoire.
En Israël, en tout cas, les Russes ne s'intègrent pas du tout à la société israélienne. Ils représentent 10% de la population maintenant, et il y a une société russe à l'intérieur de la société israélienne, ce qui va en direction de ce que vous indiquez.
Le point important que vous soulignez, c'est effectivement cette notion de compatriote qui est véritablement au cœur de cette politique d'attention créée par les autorités russes pour justement tenter de garder le contrôle. Là, en fait, on a véritablement affaire, c'est une politique de puissance et de gestion des populations vivant à l'extérieur des frontières. Il faut aussi dire que la plupart du temps, pour ce que j'en sais, mais je ne suis pas spécialiste de cette question-là, cette politique vise essentiellement les minorités russophones des anciens pays qui composaient l'URSS et qui sont devenus désormais des pays indépendants, avec de très très fortes les anciens États de la CEI, qui sont dans lesquels les minorités russophones sont extraordinairement fortes et pour lesquelles il y a des batailles pour l'obtention notamment de la double nationalité et éventuellement double citoyenneté. À d'autres pays.
Oui.
Ah oui, ça je ne connais pas.
On va prendre une série de dernières questions. Et donc.
Je veux juste apporter une précision concernant la Russie. La Russie, de façon à réintégrer tous les différents types d'immigration qui ont eu lieu à travers l'histoire et ont encore lieu aujourd'hui, appelle cette Russie la Russie hors frontières. Ouais. Voilà. Et ça, je crois, c'est une façon de réintégrer l'ensemble des gens, quel que soit leur parcours et leur idéologie, etc. Voilà. Il y a un terme pour ça. C'est Russie.
Bon, donc, on va considérer que ce n'est pas une question, on vous fait cadeau.
C'est une précision, c'est une information.
On vous fait cadeau.
Merci.
Vous sauvez.
Alors, la dernière question.
Monsieur qui va poser une dernière question.
Bon, merci beaucoup. J'ai senti une difficulté tout au long de cette conférence par rapport à la définition du concept de diaspora. Je veux dire que pour l'Africain que je suis et pour l'Union africaine, qui est l'organisation des États africains, pour l'Union africaine, la diaspora africaine, c'est l'ensemble des personnes d'origine africaine vivant hors du continent africain qui sont désireuses de contribuer à son épanouissement et à la construction de l'Union africaine, quelle que soit leur citoyenneté et leur nationalité. C'est-à-dire, entre dans cette catégorie la diaspora africaine d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, de l'Inde, de Chine, de partout à travers le monde. Et donc, les Antillais également appartiennent à cette diaspora-là. D'ailleurs, Haïti sera d'ici quelques mois membre permanent de l'Union africaine, alors que c'est un pays qui n'appartient pas au continent africain, pour la simple et unique raison qu'un verrou vient de sauter au niveau, n'est-ce pas, de l'acte constitutif de l'Union africaine, à travers son article 29 alinéa 1, qui exigeait que pour être membre de l'Union africaine, il fallait absolument être un pays du continent africain. Or, on est en train de revoir cet acte-là pour permettre à Haïti de devenir membre permanent de l'Union africaine, alors qu'Haïti était avant un membre observateur. Et je voudrais que vous essayiez de parler un peu de la question géopolitique des diasporas. Je m'intéresse à ce sujet-là parce que j'ai écrit un livre sur ce sujet qui a pour titre L'avenir de l'Afrique, la diaspora intellectuelle interpellée, et je suis chercheur d'un centre de recherche, le centre pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique et diaspora basé à Ottawa au Canada. Et donc je voudrais que vous puissiez me parler un peu du rôle géopolitique que peuvent jouer les diasporas. Je prends le cas précis de la diaspora juive aux États-Unis. Nous savons le rôle des deux puissants lobbies que sont le Washington Institute for Near East Policy et l'American Israel Public Affairs Committee, qui influence énormément la politique américaine. Et donc, je voudrais que vous puissiez me parler un peu du rôle géopolitique que peuvent jouer les diasporas dans le développement des pays. Personnellement, j'ai fait une étude au Canada il y a quelques années, où à travers cette étude, j'ai montré que la difficulté pour les pays africains, par exemple, d'accéder au développement et de pleinement jouir du rôle de la diaspora est due au fait qu'en fait, cette diaspora-là, je l'ai mise sur trois paliers. Premièrement, il y a une diaspora de collaboration, c'est-à-dire il s'agit d'une diaspora qui est constituée des personnes proches des régimes en place et qui font tout pour perpétuer ou alors préserver les intérêts de ces régimes et leurs intérêts personnels. Première catégorie. Deuxième catégorie, il y a une diaspora d'opposition qui est essentiellement constituée des personnes qui veulent l'alternance à la tête des États dans les pays africains, qui veulent la bonne gouvernance, la démocratisation des pays, la justice sociale. Et il se trouve que il y a une espèce de méfiance entre la première catégorie, c'est-à-dire la diaspora de collaboration et la diaspora d'opposition. Enfin, il y a une dernière catégorie que j'ai appelée la diaspora mitoyenne. Il s'agit tout simplement de la catégorie intermédiaire entre les deux, qui est constituée des personnes dont le souci majeur est l'intégration dans la société d'accueil, mais qui néanmoins pensent également au développement de leur pays ou de leur continent et particulièrement au transfert de fonds. Ils font des efforts pour envoyer régulièrement l'argent à la famille, mais leur rôle, leur souci permanent, aujourd'hui c'est plus l'Afrique, c'est plus le développement d'Afrique, mais c'est beaucoup plus leur intégration dans le monde de l'emploi, l'intégration sociale dans le pays d'adoption, et voilà. Donc c'était un peu la contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup.
Merci, parce que là, on a à la fois la question et la réponse, l'analyse de fond. C'était parfait. Est-ce que oui, tu veux...
Vraiment très brièvement, je voulais simplement dire qu'il ne faudrait pas penser qu'il n'y ait pas eu d'évolution du côté des pays d'origine. Justement, les États, en consacrant le terme de diaspora, ont accepté la dépossession de leur rapport à l'immigration, en particulier en termes de contrôle. Et donc, au fond, vous avez défini vous, la diaspora à travers la nature et l'intensité des échanges et le type d'échanges que les différents...
Politiques, mais
effectivement, que ces gens qui sont à l'étranger ont avec leur pays d'origine. Et là, on voit bien que les contours ne sont pas les mêmes. En particulier, nous, on a fait une étude sur les comportements financiers des migrants, vraiment au sens large du terme, à partir d'une enquête qu'on avait faite en France, vers les pays du sud de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne. Et on voit bien que les conditions de départ des migrants sont déterminantes dans le rapport que eux-mêmes et leurs enfants ont en direction du pays d'origine. Par exemple, les vieilles vagues d'immigration arrivées dans les années 60 en France, maghrébine par exemple, ont une probabilité en transfert beaucoup plus d'argent que les nouvelles vagues d'immigration parties dans les années 90-2000, parce que les premières sont parties dans des conditions d'immigration où ils ont été, entre guillemets, importés par les secteurs du bâtiment, etc., de la République, et les secondes sont parties par eux-mêmes et pour des raisons répulsives à l'égard de leur pays d'origine et transfèrent beaucoup moins que les vieilles vagues. Alors que les enfants de ces premières vagues d'immigration sont insérés, de force ou pas, avec leur immigration. Donc, au fond, ce que vous dites, c'est simplement que la nature des liens et des conditions de départ, en particulier politiques, est-ce que c'est des migrations forcées ou pas, va peser sur la constitution ensuite du rapport avec le pays d'origine. Moi, j'observe quand même que effectivement, les aspects individuels sont extrêmement importants dans le rapport qu'on a avec le pays d'origine et que, en termes d'intensité et d'échange, on observe une dimension quand même d'impact qui est tout à fait considérable, qu'on ne peut pas nier, des diasporas sur leur pays d'origine, que ce soit au niveau des échanges politiques ou des échanges économiques.
D'un mot, oui. Stéphane ?
Peut-être pas un petit peu plus qu'un mot, mais deux alors. Je ne pourrais pas vous parler de la question géopolitique, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, donc je ne veux pas me ridiculiser en public. Mais ce qui me paraît intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est tout ce projet qui s'est mis en place à partir du début des années 2000, justement projet de l'Union africaine, pour faire de la diaspora la sixième région d'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de l'usage d'un terme pour englober, pour subsumer l'ensemble des gens qui sont d'origine africaine. Il s'agit également de tenter de donner une place qui est à la fois extraterritoriale et territoriale, c'est-à-dire en faisant d'une certaine façon de l'ensemble des terres non africaines qui sont occupées par des descendants d'Africains, d'en faire la sixième région d'Afrique. Et je trouve que c'est un projet qui est en tout cas totalement original, qui, à ma connaissance, pour le moment, n'a pas encore totalement abouti, parce qu'il y a eu des conférences régionales qui ont été organisées, il y en a eu au moins 5 ou 6 à ma connaissance, avec un projet, je crois, d'ambassade de la diaspora, qui est censé être à Addis Abeba, il me semble, mm-hmm. si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et je trouve que ce projet est véritablement tout à fait novateur et intéressant. Et je suis assez frappé par le fait qu'il y ait très peu de gens qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire j'ai eu énormément de mal à trouver des informations sur la mise en place de ce projet et je n'ai trouvé aucun article ou ouvrage qui véritablement retrace un petit peu le déroulement de ces discussions, sachant qu'il y a là véritablement une définition de la diaspora africaine qui est très particulière.
Ah, eh ben alors voilà. Attention. Formidable.